correspondant Bernard Varro.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
À la une de la presse hebdomadaire et magazine, l'Afrique du Sud qui remporte la Coupe du Monde de rugby face à l'Angleterre.
L'Afrique du Sud impose sa loi à la planète rugby, lance avec un sportif respect la une du journal Le Parisien dimanche. Une nation, un destin, on chérit son confrère L'Équipe sur une photo au centre de laquelle le capitaine des Springboks, entouré de ses équipiers en liesse, soulève le trophée en triomphe. Sia Kolisi porte l'image d'une Afrique du Sud qui veut croire en son avenir, énonce ce journal.
En France, le nouveau patron de la SNCF dit lui vouloir renouer le dialogue avec les syndicats.
Dans un entretien au journal du dimanche, première interview avec la presse après sa prise de fonction, Jean-Pierre Farandou s'adresse avant tout aux cheminots et déclare vouloir renouer le fil avec eux, soulignant sa volonté de paix sociale et annonçant des rencontres au plus vite avec les quatre principaux syndicats de la Société nationale de chemin de fer. Étant rappelé le mouvement social annoncé pour le 5 décembre prochain par plusieurs syndicats de la SNCF. Grève qui s'annonce massive, prévient le journal Le Parisien dimanche. Grève qui constituera le premier vrai test social pour Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Face aux tensions sociales, le gouvernement est pris de sueur froide, signale Le Parisien dimanche. Ce climat social tisse en tout cas la toile de fond de ce qu'il faut bien appeler désormais la bipolarisation de la vie politique française, souligne le journal du dimanche, lequel hebdomadaire publie un sondage IFOP indiquant que si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, Marine Le Pen recueillerait 28% des intentions de vote au premier tour et Emmanuel Macron 27 à 28% selon les autres candidatures testées par l'IFOP. Lesquelles candidatures potentielles arrivent loin derrière? Jean-Luc Mélenchon arrive ainsi en troisième position avec 11% des intentions de vote. En cas de deuxième tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, le président de la République recueillerait 55% des intentions de vote contre 45% pour sa rivale. C'est 2 points de moins pour Macron depuis mai dernier.
Cela s'est passé lundi dernier à Bayonne, dans le sud de la France. Un ancien militaire et candidat au Rassemblement national, justement, aux élections cantonales de 2015, a ouvert le feu devant une mosquée, blessant 2 personnes.
Acte isolé ou attentat, toute la semaine, les commentateurs se sont déchirés sur la question pour expliquer le passage à l'acte de cet octogénaire. L'hebdomadaire L'Obs dénonce la France catholaïque, c'est-à-dire la convergence des catholiques et des laïcs qui débouche sur un nouveau syncrétisme dont ce journal se demande s'il peut se résumer à un slogan: calotins et républicains, même combat. Et L'Obs souligne la difficulté dans laquelle se trouve plongé aujourd'hui le président Macron sur cette question. Sommé de prendre parti, il entend agir sans céder à l'hystérie. Cette rationalité technocratique est-elle de nature à calmer les passions, se demande ce magazine. Justement, l'hebdomadaire Marianne, lui, s'alarme. Ce qui s'est passé à Bayonne est un attentat motivé par une haine envers les musulmans. Pour la première fois sur notre sol, des musulmans sont blessés par balles parce qu'ils sont musulmans, bûcheronne-t-il. Car ce passage à l'acte constitue un terrible précédent qui traduit un inquiétant climat de guerre civile. Or, s'indigne Marianne, les Français n'ont droit de la part de ceux qui sont au pouvoir qu'à un silence gêné et quelques mots creux. Alors Marianne prévient, si cet épisode ne permet pas de mettre en œuvre une politique d'intégration pour un retour des valeurs non négociables qui sont les nôtres, alors nous aurons franchi un pas vers la guerre civile.
Les magazines cette semaine se sont aussi naturellement penchés sur l'assaut de l'armée américaine contre le chef du groupe État islamique al-Baghdadi pour tenter d'en livrer les secrets.
Oui, c'est notamment le cas de l'hebdomadaire Le Point, lequel souligne que l'opération a été délibérément placée sous le signe de la vengeance d'État, en étant intitulée Kayla Mueller, du nom d'une humanitaire américaine enlevée en Syrie en 2013 et remise à al-Baghdadi, qui l'aurait traité abominablement. La traque d'al-Baghdadi aura donc été difficile, errant d'une planque à l'autre, le chef de Daesh appliquait à la lettre les principes de base de la discrétion moderne. Pas de téléphone portable sur lui ni sur ses accompagnateurs, pas de liaison internet, des déplacements fréquents d'une cachette à l'autre avec un équipage réduit au maximum, explique Le Point. Une fois l'opération terminée, Donald Trump a choisi d'humilier et de railler l'ennemi pulvérisé avec 3 de ses enfants, par la veste dont il avait lui-même commandé l'explosion, rappelle le point. Le président américain, en effet, a dit que le chef terroriste serait mort comme un chien, mais aussi comme un lâche. Une déclaration évidemment à l'attention des djihadistes. Mais a-t-elle atteint sa cible? À en croire Wassim Nasr, cité par Le Point, rien n'est moins sûr, car al-Baghdadi a fait ce qu'il fallait faire pour son public, souligne notre confrère de France 24. Dans leur champ sémantique, il est mort les armes à la main, il ne s'est pas livré et cela colle tout à fait au pédigré djihadiste, signale donc Wassim Nasr au Point.
Enfin, Norbert, la presse magazine revient cette semaine sur le récent sommet Russie-Afrique à Sochi pour se préoccuper de la montée en puissance de la Russie en Afrique ou pour la relativiser.
Selon Marianne, les Russes ont beaucoup à proposer à l'Afrique. Moscou se repositionne comme puissance militaire, offrant des options aux pays souhaitant se dégager d'une relation longtemps privilégiée avec la France ou les États-Unis, souligne cet hebdomadaire. En réalité, pense l'Express, Poutine se borne à afficher son ambition, à la signaler au monde entier et à créer une sorte de rendez-vous de chef d'État susceptible d'étendre le champ des opportunités. Car, remarque cet hebdomadaire, Moscou n'a tiré aucun bénéfice réel des différents conflits internes qui agitent le continent noir, ni au Soudan, ni en République centrafricaine, ni même au Nigeria. Poutine est bien vu de certains dirigeants africains, mais il est encore loin d'être l'ami de l'Afrique, veut croire l'Express.
Merci Norbert Navarro, on vous retrouve juste après le journal Afrique.